Mesdames, Messieurs.
Quel genre d'histoire ?
Des histoires.
Et après ?
537 représentations.
La vie et le roman, c'est différent.
Ras des villes, ras des champs, au ras du bitume et ras-le-bol, on nous rase, ça c'est pas nouveau. Mais maintenant on nous broute et on nous tond. On nous marque, nous confine, nous certifie, on nous labellise. La belle rouge, la belle vie, plus belle la vie et encore. Volaille et poulet, rescapé du pilon, en batterie l'élevage pour finir une plume dans le fion. Un contrat dans la poche et le sourire du patron. À tous ceux qui ne mangent pas de cette farine. À celles et ceux qui, de toutes les pestes, craignent avant tout la peste brune, la manipulation, l'expression cathodique d'une pensée conforme, calibrée et académique, salut. Aux fidèles et aux oiseaux de passage, bonjour. Et bienvenue dans Indiscipline, 17e du Non. Une intro diction, un peu amère, mais après tout au goût du jour, avec un certain relent de barricade et d'insurrection. Un numéro spécial, aujourd'hui, consacré à la ville et aux espaces que les artistes s'y créent. Ni temple de la culture, ni nouvelle frontière. Des espaces conquis sur les ruines du déclin industriel, des relocalisations. Ce qui fait la ville, en effet, ce n'est pas la propriété, mais la rue. Ce n'est pas tant le bâti que l'espace qui se coule autour de lui, l'espace capable, en devenir, en perpétuelle mutation. L'espace des friches, par exemple, usé par le labeur, mais espace sans frontières, capable, oui, de tout, ou presque, capable en tout cas de création. Des friches qui maintenant sont légion de par le monde, et ici, alors c'est l'occasion qui fait le larron, le parcours qui fait le jalon, le moment en tout cas, d'aborder dans cette émission ce territoire d'où j'émets, d'où je parle, d'où nous vous parlons, puisqu'avec moi aujourd'hui, pour évoquer l'évolution de la friche Label de Mai, et plus globalement de ce qu'on appelle désormais les NTA, Nouveaux Territoires de l'Art, j'accueille Philippe Foulquier, directeur du système Friche Théâtre et du Théâtre Massalia. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Concrete, c'est le mot anglais pour béton. Concrète, en effet. L'évolution des espaces urbains passe par la case construction, mais pas forcément pour bâtir à tout va. Pour jouer les virtuoses du béton, l'architecture, ça n'est pas forcément l'intervention. Et d'ailleurs, en ce moment, ce sont plutôt les forces de l'ordre qui interviennent. Eh bien, certains peuvent leur préférer d'autres voies, imaginer autre chose que de la réhabilitation, terme d'ailleurs bien pénitentiaire, comme si des lieux étaient criminels et qu'ils doivent expier ou renier leur passé. Pour évoquer le travail d'architecture sur les architectures du travail, Mathieu Poitevin, architecte. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Ensemble, pour parler de la friche ce dimanche 19 mars dans le cadre du dispositif Vivre les villes, mais pour donner d'emblée à notre discussion un champ aussi large que possible et au-delà de Marseille et de la Belle de Mai, quelques mots de Claude Renard, chargé de mission sur les nouveaux territoires de l'art, à l'Institut des Villes. Elle ne peut hélas être parmi nous aujourd'hui, d'où ce son enregistré il y a quelques jours. Tout de suite, on l'écoute. Est-ce que les mutations des pratiques artistiques, et notamment la transversalité, l'interdisciplinaire, ont joué un rôle dans l'apparition de ces nouveaux lieux, les NTA ?
Alors, d'une part, je ne suis pas sûre qu'autant d'artistes, que ce soit un mouvement complètement volontariste des artistes de se regrouper et que c'est spontané, que c'est simplement lié au fait qu'on a envie de changer les pratiques, ces pratiques artistiques. Je pense qu'en tout cas, ce qui a fait que les pratiques artistiques ont pu être modifiées, c'est que les artistes se sont sentis confrontés aux besoins d'avoir des lieux qui correspondaient pour eux à effectivement mieux parler de la société aujourd'hui, mieux la représenter, mieux la mettre en scène, et que cette société étant plus complexe, il leur fallait sortir des espaces traditionnels de création dans lequel ils étaient enfermés depuis très longtemps. Donc, pour travailler à la fois pour des raisons d'espace, pour se doter, ils se sont dotés de lieux de travail qui a, permis que des œuvres aujourd'hui soient plus transversales et interdisciplinaires qu'elles ne l'ont été jusqu'à maintenant. Je pense que c'est un mouvement qui s'est fait du fait même d'une nécessité d'être en phase avec la société aujourd'hui et l'exprimer dans sa réalité. Donc ils ont eu besoin de lieux plus proches, effectivement, de la vie des gens. On sait que la démocratisation culturelle avait coupé les artistes, d'un certain point de vue, des publics populaires, et qu'ils ont eu aussi besoin de revenir en contact et en confrontation avec les populations et les gens. Et que donc, c'est aussi pour ça que les nouveaux territoires de l'art, comme on les appelle, et j'ai tendance à dire qu'ils sont ni nouveaux, mais que cette expression, en tout cas, c'est surtout marque une rupture par rapport justement aux conditions de travail artistiques qu'on avait jusqu'à maintenant, à savoir que l'art est en mouvement, et donc l'art a besoin de nouveaux lieux pour effectivement exprimer ce mouvement, et qu'un certain nombre d'artistes ont ressenti ça. Donc, le mot nouveau, c'est surtout l'expression du fait que c'est quelque chose qui est en mouvement, qui n'est pas figé. Le mot territoire, c'est effectivement pas la frontière dans le sens effectivement fermé, limite, administrative, mais c'est le territoire d'un projet imaginaire qui peut effectivement aller très loin. Pour reprendre le mot de transversalité, il est trans toutes les frontières, et il est trans vis-à-vis, y compris des différentes aujourd'hui populations qui constituent un territoire proche ou lointain. Et donc c'est le territoire du projet, et donc on n'est pas enfermé. Et l'art, c'est les artistes, et je reviens à ma première démarrage de ce que j'avais dit au démarrage, ce sont le travail de l'art dans la cité qui était en train de se donner différentes places et qui lui permet ainsi de toucher et d'intégrer dans le processus de création de l'œuvre le regard de ce que certains appellent les curieux, avant même qu'ils deviennent éventuellement des pratiquants des lieux où se crée l'art. Donc les nouveaux territoires de l'art, ça part d'un besoin réel des artistes, et ça déclenche sans doute, ça répondra dans l'avenir si effectivement l'accompagnement de ces lieux peut être effectivement pris en compte par les institutions. Ça deviendra pour les gens d'un territoire la possibilité de réellement rencontrer l'art, non plus l'art sublimé, l'art tel qu'on l'a entendu jusqu'à maintenant, un peu sacralisé, enfin énormément sacralisé, mais l'art en train de se faire, et donc du travail. Et cette idée-là, elle est en permanence dans le travail des artistes des nouveaux territoires de l'art, NTA, dans le sens militant du terme.
Philippe Foulquier, sortir des espaces de création dans lesquels les artistes étaient enfermés depuis longtemps. Ces propos qu'on vient d'entendre de la part de Claude Renard pour évoquer les motivations des fondateurs des NTA, est-ce que tu les reprends à ton compte, toi qui as cofondé la friche Belle de Mai? Est-ce que tu te reconnais dans cette motivation?
Pas vraiment, parce qu'en réalité... D'abord, je suis revenu à Marseille pour créer un théâtre qui avait le nom de théâtre. Enfin non, il s'appelait Espace, mais Espace Massalia, c'était un théâtre qui avait fait beaucoup de théâtre. Et donc je suis venu là, dans ce théâtre, pour y installer le théâtre Massalia, nouvelle formule, celui qu'on était en train d'inventer, d'un théâtre de marionnettes. Or, ce n'était pas un théâtre, c'était un appartement. Et puis, il y avait à la même époque, à peu près, à quelques mois près, la même date de naissance, un autre théâtre qui s'installait, c'était les Bernardines. Théâtre des Bernardines, c'est dans une chapelle. Et puis, il y avait quelques théâtres, quand même, à Marseille. Il y avait, par exemple, le théâtre du Gymnase. Il est dans une rue. Le théâtre Tourski, il était dans une impasse. C'était encore une salle des fêtes. Et la Criée, c'était un théâtre. Dans la première exigence du programme, c'était qu'on voit surtout la façade de la Criée plutôt que celle d'un théâtre. Donc dans cette ville, on n'avait pas une revendication très ferme sur l'affichage du théâtre. Il m'avait semblé ça. Bon, donc je crois que c'est très important de partir de cette dimension-là. C'est-à-dire, je suis dans une ville, c'est là que je travaille et c'est là que j'essaye de trouver les solutions aux problèmes qui me sont posés par mon travail. C'est-à-dire par les propositions que les artistes me proposent de développer dans les lieux dont j'ai la responsabilité, et de parler à partir de ce moment-là sur cette résolution-là, essayer de résoudre les problèmes de la ville, c'est-à-dire d'abord ceux du public, et puis ceux du développement, et puis ceux de la culture, etc. Donc je dirais que moi, les choses ne se passent pas aussi de cette manière-là. Je crois que ce que j'ai découvert avant d'arriver à Marseille, c'est qu'il y avait, c'est un parcours personnel, donc on découvre des choses, et c'est que les artistes avaient un sens du concret, du pragmatique, un besoin du réel, une telle façon d'affronter le réel avec le maximum de vérité possible, c'est-à-dire dégangués de toute considération idéologique, philosophique et autres, que c'est d'abord pour céder à ces besoins réels qu'ils vont chercher des lieux. Et quand j'entends dire besoin de lieux plus proches des gens, je ne suis pas sûr que c'est vrai. Je suis sûr que les lieux qui étaient plus proches des gens permettaient aux artistes de travailler. Et je crois que c'était la première raison, c'est-à-dire très concrètement, les espaces où ils allaient. Et secondairement, on investit ça de programmes, de projets à contenu plus politique, plus engagé, plus militant ou plus simplement plus réel. Mais c'est d'abord comment répondre aux besoins. C'est un premier élément de réalité. Le deuxième élément de réalité, c'est que dans cette ville qui masquait en quelque sorte ses théâtres, ou qui les déguisait en friche, comme une ancienne friche de Criée, dans cette ville donc se trouvaient des lieux qui étaient en déshérence et qui étaient en train de poser à la ville la question de son propre développement, c'est-à-dire les friches. À l'époque où Christian Poitevin nous a demandé de travailler dans les friches, c'est-à-dire en 1990, il y avait à Marseille 700 hectares de friches. Alors, je ne sais pas quelle est la surface totale de la ville, mais 700 hectares de friches, ça fait beaucoup de chômeurs. Et en particulier dans ce quartier-là, hein, qui n'est pas le quartier très périphérique, qui est même un peu en deçà des quartiers nord, qui est le quartier de la Belle de Mai. Et pas seulement de la Belle de Mai, de la Belle de Mai jusqu'au port. Bon. Alors, on a commencé à chercher des lieux comme ça, mais je crois que c'est d'autres histoires qui sont arrivées. Mais en tout cas, moi, je crois que c'est cette science du réel qui donne aux artistes quelques capacités à interroger le monde. Et que donc leurs choix sont dictés par ça.
Parlons un peu, si tu veux, de la question de la transversalité. Finalement, qui de la poule et de l'œuf? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'évolution des pratiques artistiques qui ont conduit à rechercher de nouveaux lieux dans lesquels on pouvait conduire des pratiques pluridisciplinaires, transversales? Ou bien au contraire, est-ce que c'est l'apparition de ces nouveaux lieux, comme par exemple la Friche Belle de Mai, qui ont permis l'éclosion, le développement de pratiques artistiques nouvelles, et notamment de pratiques transversales et pluridisciplinaires?
Non, moi je crois qu'il y avait un air du temps qui faisait qu'il y avait de plus en plus d'artistes qui développaient des disciplines croisées. La friche s'est trouvée au moment, la friche a un peu été portée par cela. Puis il y avait des commandes politiques. La commande politique de la ville, c'était de l'interdisciplinarité. Bon, donc il y a à la fois un climat général, il y a le fait que il y a des nécessités artistiques. On voit de plus en plus des chorégraphes qui se mettent à faire des films, des plasticiens qui se mettent à filmer, etc. Et donc il y a un mouvement comme ça. Je crois que l'omnipotence de la télé y est quand même pour quelque chose de ce besoin de transversalité. Mais je n'ai pas analysé, c'est juste comme ça. Donc il y a une réalité qui a porté les friches, nouveaux territoires de l'art et autres, autant que ceux-ci ont encouragé ce mouvement. Tout ça est beaucoup plus dialectique. Hein. Il n'y a pas un début, une fin. Hein. Tout ça s'entraîne. Et moi, je crois que ça s'entraîne à condition que quelqu'un impulse le mouvement. Et ça, c'est le rôle des politiques. En l'occurrence, ils ont joué le rôle, puisqu'à Marseille, ils ont développé.
À part l'espace, que mettre en commun ? Des désirs, des moyens, des publics. Quelle était la motivation dans cette idée de mise en commun?
Alors, la mise en commun, c'est vrai que Il y a un fait historique qui me paraît important, c'est que la friche à Belle de Mai, elle est créée par des théâtres. Or, par rapport au grand modèle de friche européenne, c'est pas le cas. C'était plutôt des concerts ou des plasticiens. Et la Belle de Mai, ça a été des théâtres. Et le théâtre a quelques velléités interdisciplinaires tout de même. Il faut des plasticiens, il faut des musiciens, il faut des. Donc il y a déjà. Et puis il y a aussi le théâtre qui n'existe que dans le moment de la représentation, dans le moment de la rencontre avec le public. Donc fondamentalement, c'est assez dans cette exigence-là, quoi. Enfin, il existe sous forme d'archives, sous forme de textes, etc. Mais en tant que moment artistique, c'est le moment de la rencontre avec le public. Donc lui, il est dans ce besoin-là. Enfin, le spectacle vivant, en général, est dans ce besoin-là, et même les concerts, hein, dans ce besoin de rencontre, dans ce moment-là. Donc la notion de la réunion, comme ça, c'est une nécessité. La deuxième nécessité, c'était les possibles liés à ces lieux. Je crois que c'est déterminant, hein, ces nouvelles qui... Je ne sais plus comment il parlait de ça, lui, les espaces qui se dilatent, oui. Le temps et les espaces qui se dilatent. C'est-à-dire que ces lieux donnent des libertés que ne donnent pas les lieux définis pour. Qui, très généralement, sont... Bon, non, n'exagérons pas, il y a de beaux théâtres, quand même. Mais c'est quand même cette chose-là qui appelle l'autre, qui appelle l'autre proposition, qui appelle... Puis en plus, c'est grand. Donc on peut, comme ça... Et alors, les gens sont côte à côte, comme ça. Mais il se peut qu'ils travaillent ensemble, et la plupart du temps, ça n'est pas le cas. C'est comme la rue. On peut ne pas se rencontrer en passant pendant des journées entières dans la même rue. Eh bien, c'est pareil, la friche. Enfin, c'est pas pareil, mais enfin, en gros, on peut penser à ça. La friche n'a jamais été pensée comme le lieu, en tout cas par moi, comme le lieu où on allait mettre trois artistes côte à côte pour qu'ils travaillent ensemble. Il fallait d'abord qu'ils travaillent avant de pouvoir se rencontrer.
Dans quel état est-ce que tu as trouvé ces bâtiments lorsque tu es arrivé avec Fourneau pour fonder les tout débuts de ce qu'était la friche Belle de Mai? Comment investir pour des productions, pour des créations, pour des spectacles et pour le travail des lieux qui n'étaient a priori à l'origine pas du tout faits pour ça?
Alors, d'abord on était trois, hein, il y avait Fabrice Extrait pour arriver dans ce lieu. Et puis ensuite on est arrivé... Alors, il y avait d'abord, le lieu avait fermé très peu de temps avant, et les premières visites, c'était en parfait état. Et puis, à partir du moment où on a su, je ne sais pas qui l'a su, mais en tout cas, où s'est su le fait qu'une partie du site allait nous être confiée, il y a eu beaucoup de vandalisme. Et entre le moment où on est... Alors, tous les vandalismes, y compris le vandalisme situé. Je parle des grands camions sur lesquels est marqué « Saïta », qui en venait du matos et qui n'allait pas forcément dans les réserves de la Saïta. Mais donc après, il y a eu le vandalisme plus banal, hein, les mômes qui venaient jouer, puis qui s'engueulaient avec le gardien, qui balançaient des boulons, on fait des conneries. Mais dans l'ensemble, c'était assez bien conservé. Alors cette conservation, elle permet d'utiliser quelques courants électriques, quelques matériaux, etc. Mais effectivement, l'architecture n'est pas faite pour. Donc on va inventer. Alors au début, on invente des choses, enfin on invite des artistes à inventer des choses qui vont utiliser ces spécificités. Il y a eu Xavier Marchand qui avait fait un spectacle pour les Bernardines dans lequel il utilisait des salles avec plein de colonnes et comme une forêt qui permettait un lointain. Il avait fait une mise en scène très vaste comme ça, avec beaucoup d'utilisation du son pour pouvoir utiliser l'espace et cette espèce de particularité. Il y avait le groupe Dune qui utilisait des projections, comme toujours dans leur spectacle de chorégraphe à l'époque, et qui offraient en quelque sorte le lieu par des grands balayages superbes de films qu'ils avaient ramenés. À l'époque, c'était Zagreb. Ils travaillaient beaucoup sur Zagreb et sur le début de guerre qui était en train de se profiler là-bas. Et les images offraient Zagreb aux spectateurs, comme ça, et balayaient du même coup le lieu. Et puis, il y a eu d'autres choses, d'autres opportunités, en particulier le fait qu'on pouvait entrer en train dans la friche et qu'on avait utilisé une fois. Enfin, on l'a utilisé deux fois. La première, ça compte pas. C'était institutionnel. La deuxième fois, c'était vraiment travailler avec ça. C'est une belle histoire. On rentrait dans le décor. Le public s'en apercevait qu'à la fin. Enfin, on visitait l'île en ville. C'était comme une île. Une île, on n'y va pas à pied. Hein. Donc là, on y allait en train. Bon. Donc, il y avait toute une façon de proposer le lieu. Et effectivement, on le brûle de décoffrage, quoi. On utilisait ça comme ça. Mais en plus, il y a des volumes, des espaces avec des problèmes acoustiques de toutes sortes. Mais chaque fois, ça proposait un jeu différent. Et la première époque, ça a été plus d'apprivoiser le lieu que de le transformer.
NTA, nouveau territoire de l'art, l'appellation est, je crois, à mettre au crédit de Fabrice Lextret, que tu citais tout à l'heure, qui ne peut pas non plus être parmi nous aujourd'hui, mais je l'ai joint par téléphone il y a quelques jours, je le salue, et en tout cas, il semble que ce soit lui qui soit l'auteur de cette terminologie-là. Peut-être, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte de l'apparition de ce terme NTA ?
Ben, c'est un moment important, parce qu'il se trouve que Fabrice, qui après 10 ans comme directeur administratif de la Friche ou comme cofondateur, comme vous voulez, a souhaité chercher à faire du chemin ailleurs et donc a quitté la Friche et a été sollicité pour travailler avec le secrétaire d'État à la décentralisation, Michel Dufour. Bon, et très vite, il a une commande sur les friches industrielles, les friches culturelles, les projets culturels. Donc il a fait un rapport qui est très grande chose. C'est, je pense que c'est rare des rapports de cette qualité, de pensée, d'analyse et de position aussi. Et ce rapport, il a bien fallu qu'il nomme. Et il y a eu un débat. Je ne suis pas absolument certain que ce soit lui qui ait trouvé cette terminologie. Je sais que ça s'est fait rue de Valois, hein, ça s'est fait au ministère de la Culture, au cabinet de Dufour. Où ils ont trouvé ce nom au moment où, à l'issue du rapport, il fallait faire ce fameux colloque qui a donné le livre que vous avez cité tout à l'heure.
Mathieu Poitevin, à ton tour. Je voudrais peut-être qu'on commence par décrire un peu ce bâti initial de la Friche, avec bien sûr le point de vue de l'architecte. Comment est-ce que tu décrirais l'usine Seita ?
Comme une usine, déjà. Je ne sais pas si la description est quelque chose qui se prête à ce qu'on cherche à faire. C'est essayer de le comprendre, déjà. C'était compliqué. Ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on travaille sur le projet. Au début, on se perdait. On faisait comme si on se repérait comme eux, parce qu'ils vivent dedans comme des rats dans une fourmilière. Mais nous, on était totalement perdus. Donc, on essayait simplement de comprendre là où on était. Essayer de se situer en fonction de leurs désirs, de leurs envies, de leurs doutes et de leurs craintes, et de faire les interprètes par rapport à un lieu qui n'était pas fait pour ça, en effet, mais qui devait être un lieu utilisable. Donc, on n'a pas essayé de le décrire, on essaie de comprendre le lieu. Déjà, ça, c'est la première étape. On a mis du temps, presque un an.
Cette usine, en tout cas, elle fait partie de ce qu'on pourrait appeler le patrimoine architectural industriel.
Oui, sans doute. C'est même, je pense, excuse-moi de te couper, je pense qu'à Marseille, les usines et les friches sont les vrais monuments de cette ville. C'est eux qui en forment les jalons. Et c'est eux qui en forment le parcours. Si on va de l'Estac jusqu'à la Pointe Rouge, ce n'est pas jalonné de monuments ou de statues ou d'églises, c'est jalonné de friches industrielles. C'est ça qui fait l'identité de Marseille.
C'est assez récent, en tout cas, qu'on les intègre dans un patrimoine. Pendant très longtemps, on a considéré que c'était des lieux sans valeur, des lieux qui étaient un peu délaissés, abandonnés. Ça n'est que depuis quoi, une dizaine d'années qu'on s'intéresse beaucoup à la qualité architecturale de ces bâtiments.
C'est même dangereux de parler de patrimoine parce qu'il y a un côté poussiéreux dès qu'on parle de patrimoine. Et donc il y a un côté de sacraliser un lieu qui n'est pas du tout fait pour ça, qui est un lieu qui est fait pour bouger, dont il faut pouvoir tirer parti. Et si on ne peut pas en tirer parti, on démolit. Il n'y a pas de nostalgie à faire par rapport à ça. Ils sont là. Si on peut les utiliser par rapport à un besoin, une envie à un moment donné, très bien. Si on ne peut pas, tant pis. Donc patrimoine, c'est un mot qui me fait peur tout de suite. Ça fait vite poussière.
Alors je crois un autre mot qui te fait peur aussi, c'est celui de réhabilitation. Lorsqu'un architecte travaille sur un bâtiment ancien, c'est souvent le mot que l'on évoque. Et je crois que tu préfères un autre terme qui est celui de reconsidération. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence ?
Non.
S'agit-il donc de la même chose ?
Il faut faire attention. Moi, je ne suis pas dans la théorie, je suis dans la pratique. Je suis un praticien de l'architecture. Ce qui m'intéresse, c'est de faire et de me confronter à des prise de position politique, sociale, culturelle, mais en tout cas à des prises de position qui sont réelles. Donc, ça s'appelle réhabilitation, reconsidération, n'importe, je m'en fous du terme. Franchement, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse quelque chose et qu'il se passe quelque chose. La terminologie ne m'intéresse pas beaucoup, en réalité.
Alors, si c'est le travail qui t'importe, parlons du travail, est-ce que le travail d'architecture sur ce type de lieu supposait un cahier des charges spécifique, particulier, dans la mesure où il s'agissait de lieux qui étaient dévolus à l'activité artistique ? Est-ce que ça pose un problème particulier à l'architecte ?
Non, ça ne pose pas de problème particulier, c'est plutôt des lieux de résistance, et c'est des lieux où on doit faire des choix. Ce n'est pas du travail, c'est du plaisir, et c'est ce qui guide toute ma vie, c'est le plaisir. Alors, si... si c'est un travail, ben je sais bien, je vis correctement de mon travail, parce que je m'y prends beaucoup de plaisir. C'est bien de travailler à la Frise, parce que travailler avec Philippe Foulquier, Fabrice Lextrait, enfin toute l'équipe qui est ici, que je commence à bien connaître depuis 5 ans, c'est des gens qui réagissent et qui ont un avis. Et c'est un avis qui est toujours structurant et constructif. Donc à partir de ce moment-là, ça nous fait poser d'autres questions et ça nous pousse dans nos retranchements pour ne pas se satisfaire d'une première approche, mais plutôt de la nourrir et de la vérifier, de les convaincre du bien fondé de ce qu'on fait. Et ça, c'est plutôt rare. Donc c'est des clients, parce que c'est aussi des clients. C'est des maîtres d'ouvrage. En tout cas, ils sont en passe de le devenir. Au bout de 5 ans, ils ont fini par comprendre ce que c'était que le rôle de maître d'ouvrage. C'est aussi ça. Donc c'est un travail qui est un travail collégial dans lequel chacun a sa particularité et son particularisme et chacun ses capacités. Moi, je suis architecte, mais c'est un travail collégial, je le dis sans aucune démagogie.
Dans cette liberté donc qui t'était offerte, quel choix est-ce que tu as voulu, quel parti pris pourrait-on dire, le choix, que tu as voulu y réaliser?
J'ai pas de... Enfin, si le parti pris, c'est justement de ne pas sacraliser le lieu. Si le lieu est capable, très bien. Si on peut en tirer parti, très bien. Si on ne peut pas, on démolit. C'est ce qui s'est passé quand on a fait une étude qui était générale. C'est-à-dire que les premières approches, quand on a commencé à réfléchir, c'était de constater ce qui ne marchait pas de ce qu'on avait fait depuis un certain temps. Ce qui ne marchait pas, c'est qu'on construisait toujours dans la précarité. On est mal passé pour en parler, puisqu'on parle depuis des Algeco, mais enfin quand même, c'est des Algeco qui ressemblent plus à des Algeco. Donc tout ce qui a été construit depuis très longtemps à la Friche a été censé être démoli ensuite pour un projet qui viendrait plus tard. On a arrêté de dire que ce projet se ferait plus tard. On a fait un projet qui était un projet global, dans lequel tout ce qui serait construit serait pérenne et serait là pour durer. Donc à ce titre-là, on a commencé par le premier projet sur lequel on était nous mandatés, c'était de travailler sur la relocalisation des bureaux. À l'époque, dans les parkings, c'était en 99. Puis finalement, juste en réfléchissant, donc en butinant, on va dire, comme des petites abeilles mignonnes que nous sommes, on s'est rendu compte que la cartonnerie devait devenir un stade de foot municipal, pour des raisons d'obscures raisons. Or, la cartonnerie était le seul lieu capable de grande hauteur et de grande superficie pour que Philippe et ses amis puissent accueillir des spectacles. Donc c'était quand même un truc aberrant de le virer. Donc on s'est battu avec Philippe et avec tout le monde pour conserver la cartonnerie et la réhabiliter. On n'avait toujours pas fait les bureaux. Par contre, une fois qu'on a réhabilité la cartonnerie, il fallait quand même faire les bureaux. On s'est rendu compte que l'espace qui était dans lequel nous sommes aujourd'hui assis, anciennement salle des rouleaux, aujourd'hui par vie très chic de la Friche La Belle de Mai, l'espace devait pouvoir servir à devenir l'espèce de vitrine et de façade principale pour la voie ferrée. Puisqu'on est quand même dans un contexte urbain assez particulier, limité par les trains, donc on ne peut pas s'étendre, et limité par un tissu urbain quasiment villageois, qui est la Belle de Mai, donc on ne peut pas s'étendre non plus. Donc on a une espèce de gros récif, de gros cailloux, qui est posé au milieu de la ville, et sur lesquels les choses viennent se greffer, mais à toute petite échelle. Quand on compare le bureau de Philippe sur les 50 m², c'est ridicule. Donc cette espèce de récif corallien, en fait, urbain, qui devient un lieu capable et un lieu où toute la vie peut se greffer dans des interstices improbables et pas prévus pour ça. On a simplement essayé de faire en sorte que les voies de la vie, en se prenant pour Dieu, les voies de la vie puissent s'immiscer dans ce récif urbain. Voilà.
Ne parlons pas de Dieu, mais parlons de Jean Nouvel.
Dieu, donc.
Quasiment. Notamment une phrase donc, qui émane de Dieu, c'est « Il faut accepter et créer le vide ». Alors évidemment, la Friche La Belle de Mai, les friches industrielles, elles valent avant tout par l'immense territoire vide, leur capacité de vacuité, si on peut dire. Est-ce que tu as voulu, toi, dans l'intervention que tu y proposais, respecter cette place du vide?
Bien sûr que oui, c'est... C'est pas par hasard que je travaille ici, c'est évidemment parce que il y a des affinités, des atomes crochus avec les gens qui sont ici. C'est aussi parce que Jean Nouvel, qui était avant le président de la Friche, connaissait un petit peu ce que je faisais, se trouvait que c'était un bon relais d'avoir un Marseillais avec un peu plus de cheveux que lui pour faire ce qu'il avait à faire ici. Puis ensuite, Patrick Bouchain, et puis d'autres après moi sans doute, mais c'est on est à la radio, donc c'est difficile de le décrire, mais il y a un moyen très simple pour ça. C'est si je prends mes mains et que je les mets en face de moi, forcément je vois le volume dessiné par le plat de mes mains, et en même temps, entre chacun de mes doigts et entre mes deux mains, il y a des vides. Cet espace délimité par ces vides est au moins aussi important que celui délimité par les pleins. C'est ça l'architecture, c'est considérer que ce qui ne se voit pas est au moins aussi important que ce qui se voit. Voilà. Donc on anticipe sur un futur possible. Et la Friche, donc ça, quand on fait ça, on invente une histoire, et cette histoire se fait ou se défait. Si on s'arrête simplement à l'objet, à la seule sensation du regard, on perd 5 dimensions. Quand on travaille sur l'architecture, on travaille sur toutes les dimensions, sur tous les sens. Voire même le 6e sens, c'est peut-être le plus important, qui est l'intuition. C'est l'histoire qui se fait au fil du temps. Donc on est toutes petites choses, nous, parce qu'on dure un tout petit temps. À la friche, l'histoire existe déjà. Dans les friches industrielles, l'histoire existe déjà. C'est une aubaine pour un architecte puisque tout est fait. On a juste à se poser, à se taire, à comprendre. Si c'est beau, c'est bien, on flatte. Si c'est pas beau, on démolit. On n'a même pas à prendre de risques. Tout est parfait dans une friche industrielle. C'est ce qu'on fait ici. Quand ça marche, on garde. Quand ça marche pas, on enlève. Et c'est très bien.
Comment est-ce que tu as intégré cette problématique tout à fait particulière et redoutable, j'imagine, qui est de construire, qui est de bâtir, et en même temps pour quelque chose qui est sans cesse en mutation, qui est sans cesse destiné à évoluer, à changer, à se remettre en cause et en question?
J'ai appris la patience. C'est un métier de longue haleine où on apprend la patience, où on prend toutes les considérations possibles. Il y a évidemment une considération économique très importante dont il faut tenir compte. Puisque nous sommes dans l'îlot 3, qui est la culture vivante, et c'est celui qui a le budget le plus petit, le plus faible. Donc on construit avec ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Pas forcément ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut. Et une fois qu'on peut, on avance et l'objet réalisé va au-delà de ce qu'on avait imaginé confortablement derrière un écran.
De la transversalité à la transnationalité, on en parle dans un instant avec Philippe Foulquier et Mathieu Poitevin. Mais tout de suite, on écoute de nouveau Claude Renard. Y a-t-il des réseaux nationaux, européens ou internationaux des NTA?
Alors oui, bien sûr, qu'il y a un échange des réseaux, que le réseau, il y a le réseau Art Factoris, qui, en plus du fait que favorise les échanges, met à disposition un lieu ressource dans lequel, sur lequel tout le monde peut retrouver les différentes expériences qui se passent en Europe, dans le monde, etc., avec en plus des descriptions suffisamment intéressantes pour que des projets, pour que ceux que ça intéresse puissent dire c'est là que je vais aller regarder, etc., etc. Ce n'est pas... D'autres éléments dont je parlais tout à l'heure qui marquent complètement l'internationalité et la transnationalité des projets, c'est les équipes qui se sont inscrites dans les projets Nouvelles Technologies. Moi, j'ai eu un stagiaire l'an dernier qui venait de la friche RVI dont je parlais tout à l'heure, qui est effectivement complètement sur les projets qui permettent dans un temps extrêmement court de rassembler plus de... Je ne sais pas, peut-être que je limite, mais déjà 2000 personnes sur place, mais qui sont en connexion avec, je ne sais pas, 100 000 personnes dans le monde. Donc, et qui refusent, et ça m'avait beaucoup interpellée en discutant avec lui, qui refusent toute idée que tout ça est virtuel. Pour eux, les projets, ce type de projets ne sont pas virtuels, ce sont vraiment des projets qui influent sur la réalité et qui ne sont pas virtuels dans le sens où on l'entend traditionnellement. Donc oui, il y a ça. Et bien entendu, ce qui s'est passé à Marseille en 2002, je reviens dessus, était profondément, disons, l'expression d'un mouvement international, même si il a été difficile quelquefois de se comprendre sur le sens même des projets qu'on menait. Je pense à Aminata Traoré qui m'a quasiment fait pleurer par la force de son discours et qui a expliqué que pour elle, c'était l'Afrique entière qui était en friche et que c'était vraiment un travail à faire à l'échelle d'un continent avec lequel il fallait travailler. Mais par rapport à cette réflexion sur ce que les uns et les autres peuvent s'apporter, je pense que les modes d'organisation, de coproduction, de co-génération qui se développent dans les friches entre les artistes, entre les populations, entre les associations du secteur social sont effectivement, et des nouvelles modalités économiques et des nouveaux modes d'organisation sont là vraiment nécessitent des transferts et peuvent être transférés sur des expériences et des continents qui sont très différents des nôtres, mais dans lesquels on retrouve, on peut effectivement planter un certain nombre de modalités de travail, de processus, de démarches qui peuvent effectivement s'échanger et prendre réellement racine de manière positive pour transformer, non pas de manière alternative ni marginale, parce que je pense que Philippe Foulquier est quelqu'un qui refuse, par exemple, l'idée de marginalité de ses expériences. Sauf si on se dit que la marge, c'est ce qui fait tenir la page, dans ce cas-là peut-être, mais malgré tout, ce ne sont pas des expériences marginales, c'est des actes qui sont posés, qui ouvrent des perspectives à l'échelle nationale, à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Et donc, on ne peut pas régler cette histoire-là en parlant de marginalité et peut-être même pas d'alternative, parce que ça devient nécessaire. Alors, est-ce que ce qui est alternatif nécessaire, après, on peut faire un débat sur les termes, mais je pense profondément qu'on n'est pas dans la marginalité. Ou alors, comme dirait un jeune chercheur de l'université de Pau, je vais avoir un problème sur son nom, mais ça fait rien. Il vient de sortir une thèse passionnante, parce qu'aujourd'hui, si les chercheurs reconnus, on en parlait tout à l'heure sur les évaluations, n'ont pas encore produit des choses qui peuvent nous aider sur les nouveaux territoires. Par contre, beaucoup de jeunes étudiants, thésards ou autres, sont en train de produire des choses passionnantes sur les NTA. Mon travail à l'Institut des villes, ça a été beaucoup plus d'essayer d'en faire un groupe de réflexion, d'essayer de réunir leurs thèses, leurs DESS et autres pour effectivement venir apporter une réflexion à des chercheurs qui sont sur un autre plan. Et ce jeune chercheur de Pau a fait une thèse sur le thème des marges. Alors lui, il emploie le mot marge. Des marges innovantes aux marges anticipatrices, en montrant que dans la ville, effectivement, beaucoup de lieux qui étaient considérés comme marginaux sont devenus des lieux de transformation de la ville qui lui donnent même des valeurs. Et les exemples qu'il a pris sur ses monographies, c'est notamment les frigos à Paris, qui étaient vraiment la marge d'une certaine manière, et en tout cas qui sont maintenant au cœur du projet du 13e arrondissement et qui lui donnent même une valeur architecturale tout à fait passionnante. C'est Mixar Miris, dont on parlait tout à l'heure à Toulouse. Et quel est le troisième exemple? Ah oui, c'est un exemple qui s'appelle les abattoirs à Pau, qui effectivement se situe dans une petite ville de l'agglomération, mais qui donne la possibilité à cette petite ville de s'ouvrir, d'être une des portes de la ville de Pau et de permettre un accueil des artistes qui vont permettre d'être un incubateur, un lieu de pépinière, enfin tout ce qu'on veut, nouveau territoire de l'art, par tout un travail de démarche, y compris de travail d'études d'action avec des gens passionnants comme les gens du bruit du frigo à Bordeaux qui sont venus apporter leurs compétences à la réflexion de ce projet. Donc voilà, c'est pour moi la marge, effectivement ça fait tenir la page et c'est effectivement de ces lieux-là que c'est en train de sortir les potentialités de nouvelles formes d'organisation de la société.
Philippe Foulquier, la marge, la page, la marge est-elle encore et toujours à la page?
Oui, mais comme le disait Claude, à condition que ce soit ce sans quoi la page n'existe, meurt vite. Effectivement, la notion d'alternative m'a toujours fait peur parce que ça veut dire sous-professionnel, ça veut dire sous-considération, ça veut dire sous-financement. Alors même si tout ça reste vrai, c'est pas pour ça qu'on accepte le statut d'alternatif dans ce sens-là. Ceci dit, c'est des lieux où quand même s'explorent des nouveaux modes de travail. C'est là qu'on va retrouver notamment des interpellations de la ville comme un ensemble humain, mais également comme un univers d'architecture, d'urbanisme simplement, en transformation, et puis un espace de développement. Donc nous, quand on est arrivé ici, on s'est assez vite posé ces questions, je veux dire... comment on se rapporte au quartier. À l'époque, on disait tous les quartiers. Pour nous, c'était plus une catégorie sociologique que géographique. Et puis, comment ça s'inscrit, ça se transforme. C'est le fameux récif dont parlait Mathieu tout à l'heure. Moi, je comparais ça plutôt à une sorte de le château fort du village, de ce village de friches qui vont jusqu'à Arinque, jusqu'au port, quoi, et qui sont le lieu, qui sont l'épicentre de la crise de Marseille. Et donc dans ces là, il y a une sorte de nécessité de penser la ville quand on est dans ces lieux, parce qu'on est dans un constat d'échec de la ville. Et il y a une espèce de revanche à prendre. Alors, ce n'est pas conscient comme ça, ça ne se fait pas... d'abord, tout le monde n'en est pas conscient, et puis tout le monde ne le nomme pas, et ça se formule avec le temps. Et puis peut-être que Marseille inspire aussi, inspire à ses opérateurs, aux gens qui y travaillent, le souci de leur ville, quoi. Peut-être.
L'étranger ne nous ressemble pas, mais peut-être est-ce qu'il nous rassemble. Parlons, si tu veux bien, de la dimension internationale de la friche. De nombreuses actions ont été menées qui reliaient cette friche avec d'autres expériences à l'étranger. Je pense à des expériences au Brésil, par exemple le CESC, ou bien à des expériences peut-être en Europe, et en tout cas en France. Quel ressenti tu as, toi, de cette dimension internationale du travail des friches ?
Ben moi, je mets la friche comme un petit Marseille dans Marseille, c'est-à-dire que, par rapport à cette question en tout cas, c'est-à-dire que l'avenir de Marseille, c'est l'international, c'est un port qui est célèbre dans le monde entier, qui est aimé. J'étais à Dakar, il y avait une finale de foot avec l'OM contre Porto, je crois, et la moitié de la ville était dans sa télé, c'était pas pour voir Porto. Et donc, il y a une espèce de popularité de cette ville qui lui donne un avenir, un tas de possibles, qui fait que... Et en même temps, elle est pas bien située. Je veux dire, on vient pas à Paris pour la mode. C'est pas les nantis des pauvres qui viennent ici. C'est pas ça. On y vient pour des tas d'autres raisons. On vient pas... Enfin, mais en tout cas, on y vient souvent. Et c'est ce côté cosmopolite-là. La friche a un peu ce côté-là. Et pour moi, le devenir de la friche, qui, y compris le devenir de sa propre ville, c'est l'international.
Très, très rapidement, comment exister dans cette dimension internationale en résistant à ce qui est aujourd'hui le mot d'ordre, c'est-à-dire le profit, la globalisation ?
Je crois que je renvoie encore à la science du réel des artistes, qui est je veux dire, l'international, c'est le local moins les murs, mais c'est aussi le local. Et c'est dans le local que se source la capacité à faire tomber les murs. Et donc c'est dans cette concrète chose très concrète, très quotidienne, qu'on fabrique du rapport aux gens, du rapport aux choses et de la transformation. Et que ça peut permettre, par élargissement progressif, d'aller cela. Et là, on se heurte, on est à fond la caisse, mais à fond, ça nous arrive en plein dessus, à la contradiction du profit. Parce que immédiatement, on est dans le besoin de mutualisation. Immédiatement. Et donc la notion de profit spoliant l'autre est immédiatement en échec.
On se retrouve dans un instant pour évoquer notamment la ville, la commune et le commun. On écoute quelques instants Patrick Portela. Foulquier, je crois que vous souhaitiez désannoncer le morceau qu'on vient d'écouter.
Enfin, j'entends le travail de Portela avec les Kanaks, et ça évoque pour moi cette façon, à la fois l'international, et puis cette façon d'éviter, d'être toujours sur le qui-vive pour continuer d'inventer des manières de maintenir de la vie. Il se trouve que depuis un certain moment, je regardais la fameuse villa qui est en surplomb de la friche et que je me disais c'est quand même bête de l'utiliser en turnover d'hébergeants alors qu'on pourrait en faire une maison d'auteur. Et en discutant... Alors, il y avait eu un projet de maison d'auteur avec Jean-Claude Izzo, qu'il n'a évidemment pas pu finir pour les raisons que tout le monde sait, et que moi, je m'étais dit c'est quand même dommage qu'on n'ait pas pu faire ça. Il s'agissait d'inviter un auteur dans mon polar, à Marseille, avec le but, en fait, c'est de mettre un peu de Marseille dans son imaginaire. Pas plus que ça, il n'y avait pas de commande particulière. Bon, il y avait l'idée de faire une chronique à Radio Grenouille ou de trucs comme ça. Et puis, voilà. Et puis, en discutant avec les gens de les cahiers du Sud, je crois, Patrick Collomb et Tommaso, ils me disent, nous, on aimerait bien reprendre cette idée, pourquoi pas, et on le faire. Et l'enchaînement, c'est que le premier auquel on a pensé, c'est un peu le ISO du Nord, c'est Deninx. Et pourquoi Deninx s'est trouvé ? Parce que le connaissant un petit peu à travers les deux ou trois bouquins que j'ai pu lire, mais aussi à travers, en suivant un peu ce qu'il fait, je me suis dit que c'était quelqu'un qui pouvait accepter l'idée de ne pas venir dans un concept de résidence pré-élaboré, mais au contraire l'inventer avec nous. Comme d'ailleurs, il y a pas très longtemps un article de Télérama sur la résidence, et moi je disais au gars qui est venu nous voir, je disais l'important de la résidence, c'est de ne pas la définir a priori. Il faut qu'elle s'invente. J'arrive dans une maison, je vais la faire à ma main. Eh bien, la personne qui était, qui est tout à fait d'accord, donc que j'ai rencontré, qu'on doit mettre ça en place pour l'année prochaine, c'est donc Didier Deninx, qui vient de terminer, qui vient de publier déjà depuis un certain temps, comment ça s'appelle, Cannibal, le bouquin qu'il a fait en travaillant à partir de l'exposition coloniale.
Et des zoos humains.
Et du zoo humain de Canac, justement. Et il m'a raconté cette histoire. Enfin bon, c'était, donc c'est un enchaînement, je trouve. Et pourquoi tout d'un coup, on a mis en cage, je ne sais pas pour quel était l'état d'esprit, pour considérer que ces hommes-là pouvaient être en cage, mais ce que je sais, c'est que ce que Portela a trouvé par ailleurs, c'est qu'il y a dans ces cultures de Kanaky, ou de, je ne sais pas comment, Nouvelle-Calédonie, il y a dans ces cultures une magie, des secrets, des sapiences, des choses dont on a besoin. Et c'est pour ça que très vite l'international se fait.
À tous les deux, Mathieu et Philippe, cette question, comment est-ce que la friche s'inscrit dans la ville qu'elle flue ? Puisque désormais, ça n'est plus une usine de production. Est-ce que la production artistique l'inscrit dans la ville aujourd'hui ?
Philippe ? Oui. Oui, elle est inscrite dans la ville. Oui, parce que c'est l'un des lieux en France qui fonctionne depuis longtemps, donc il y a une espèce de légitimité, de jurisprudence incroyable qui redonne à la culture le droit de cité. Donc rien que pour ça, elle est inscrite dans la ville, oui.
Alors justement, Mathieu, puisque tu répondais, est-ce que le travail que tu as mené sur la friche Belle de Mai, est-ce qu'on pourrait le comparer à d'autres expériences qui ont eu lieu, notamment en France, je pense par exemple, au travail de Patrick Bouchelin sur le lieu unique à Nantes. Est-ce que chaque friche a un programme vraiment très différent, très spécifique, ou est-ce qu'on retrouve des traits communs dans vos interventions ?
Tu prends l'exemple de Patrick Bouchelin, il y a forcément des affinités communes, puisque c'est quelqu'un avec qui je travaille régulièrement, ne serait-ce qu'ici, et que je connais bien. Maintenant, ce n'est pas du tout les mêmes projets, parce que ce n'est déjà pas du tout les mêmes échelles. Si on prend le lieu unique ou la condition publique, c'est un seul projet, et puis c'est tout, avec une seule fonction. Et je ne connais pas le nombre de mètres carrés, mais ici, on parle de 50 000 mètres carrés, de beaucoup d'activités différentes, d'une multitude de cultures, d'une multitude de rencontres, d'une multitude de capacités de faire, et un projet qui varie et qui évolue et qui se mute tout le temps. Donc à ce titre-là, c'est des projets qui ne sont pas du tout comparables, non. En plus, je pense qu'il y a un truc qui est... il y a une espèce de volonté hégémonique dans le représentant de lieu unique ou de la condition publique qui n'existe pas ici. Encore une fois, c'est des projets qui sont... collégial. C'est un récif.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Il est temps maintenant de parler d'avenir. Le futur, c'est dans quelques secondes. Parlons d'avenir, donc. Philippe, la geste artistique des friches est-elle aussi radicale qu'à ses débuts ? Ou bien, comme le dit Negri, le risque, c'est l'usure. Est-ce qu'il n'y a pas, pour tous ces lieux, et particulièrement pour celui-ci, un risque d'institutionnalisation ?
Bah oui. De toute façon, toutes les œuvres humaines ont une durée de vie. Je crois que c'est Godard qui disait « le cinéma, ça ne dure pas très longtemps ». Le film ne dure pas très longtemps. Et toutes les œuvres humaines ont des durées de vie. puis ils vieillissent, et puis bon, et puis heureusement qu'il y en a d'autres qui arrivent pour bouleverser ça. Bon, mais on se réfugie derrière rien en disant ça, mais c'est vrai qu'il y a ce risque. Bon, moi j'essaye de voir ça, c'est-à-dire que, je me rappelle une fois, j'étais interviewé pour je sais plus quelle télé, le type il me dit, est-ce qu'on peut définir l'Afrique ? Je dis non, parce que dans définir, il y a finir. Alors je veux pas, alors il fallait pas dire ça, mais bon, j'ai dit quand même. Hein. Mais c'est, je crois, le vide dont parle Nouvelle. C'est l'espace qui reste, non pas à combler, mais à fouiller et à inventer du même coup. Et c'est, je crois qu'on a, on a une infinitude devant nous de ce point de vue-là. Donc, alors, le risque, vous savez, c'est simple. C'est le lieu qui se met à penser pour lui et seulement pour lui. Et dans ces lieux qui ne pensent qu'à eux, on a des gens qui ne pensent qu'à leur statut, qu'à leur toute chose égale et tout à fait légitime, mais qui ne pensent... Moi, je me rappelle, dans un grand théâtre marseillais où j'avais fait un spectacle avec des mômes, et où il y avait les parents qui étaient là, et à la fin du spectacle, les gens restaient. Et les gens du grand théâtre me disaient « Mais pourquoi ils s'en vont pas ?» Je dis « Ben, ils y sont bien. » Pour une fois que vous avez quelqu'un qui est bien chez vous, ça ne vous plaît pas. Et c'est un peu cette façon... Ben oui, ils avaient envie qu'ils partent, parce qu'ils avaient envie de partir aussi, et c'est légitime après tout. Mais c'est un peu provocateur ce que je dis, mais en même temps, je trouve qu'il faut penser ces choses-là, et c'est à ce moment-là qu'on va trouver qu'on a besoin de liens plus proches avec les autres, peut-être. C'est-à-dire que dans l'installation qu'on a faite, ce qui nous préserve de la mort, c'est ce qui vient qui vient l'en empêcher. Et ce qui vient l'en empêcher, c'est ce rapport à la réalité de ce qu'on fait. Ça n'existe pas, les choses qu'on fait, si elles ne sont pas faites pour les autres, quoi.
Dans l'évolution prochaine de la friche Belle de Mai, les évolutions en termes de forme, en termes de structure aussi, toujours dans des formes coopératives, mais peut-être il va falloir quitter la forme d'association qui était jusqu'à présent son statut juridique. Quels sont les enjeux de ces prochaines évolutions, notamment, je crois, l'évolution vers ce qu'on appelle une SKIC ?
C'est joli, SKIC. Oui, une SKIC, ça veut dire société coopérative d'intérêt collectif. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'il s'agit d'obtenir, de gérer le site et sa transformation. Ce n'est pas seulement gérer des mètres carrés, c'est les transformer. Donc, les investissements que ça suppose. Et de créer pour cela une structure qui soit plus à même de le faire, ce que ne peut pas faire l'association. Beaucoup plus de difficultés, c'est des problèmes juridiques et autres, et fiscaux, qui fait que c'est un peu plus compliqué. Il y a une autre raison qui, à mon sens, est beaucoup plus importante. C'est la manière dont le site... On est quand même dans une histoire totalement extraordinaire. Voilà, depuis 15 ans qu'on est installé là, bientôt 16. Non, 15 ans, projet Friche, bientôt 16. Voilà, et les municipalités successives ont soutenu ce projet. Et peu à peu s'est constitué ici un ensemble, un dispositif tellement exceptionnel qu'il faut un projet exceptionnel à côté. Alors l'idée de créer, comme vous dites, une SKIC, c'est l'idée, c'est pour éviter de confondre avec SCI, peut-être, société...
Civile immobilière.
Voilà, c'est ça. Bon, donc c'est... C'est à la fois, c'est-à-dire que la puissance publique, la ville en l'occurrence, nous confie un lieu pour que nous continuions de le transformer, de le faire vivre, et qu'on a prouvé en 15 ans qu'on était capable de le faire. Voilà, on arrive dans cette situation-là. Et pour y arriver jusqu'au bout, on est obligé de solliciter et d'associer avec nous les résidents qui sont avec nous. Et pas dans un discours « tout le monde doit tout faire », mais dans un discours de répartition de responsabilités et d'engagement mutuel, d'engagement commun. Et là, je crois que c'est... Alors, par rapport à la notion d'institutionnalisation et tout le Bataclan, on est complètement protégé. Et l'autre donnée, c'est qu'il y a... on peut parler de responsabilité sans être immédiatement taxé de libéral. Bon, je pense que... Je pense pas être le seul, mais en tout cas, moi, je le pense très fort, qu'il y a une espèce de culture de la culture en France et que peut-être que les NTA, les Nouveaux Territoires de l'Art, et en tout cas la Friche Belle de Mai s'y emploie, dans ce sens-là, est en train d'inventer une société civile de la culture et non pas une société parapublique. Et que ce passage-là est difficile, douloureux, et que nous allons y arriver, mais que, en tout cas, la SIC est une chance pour nous de tenter ce passage-là.
Un enjeu majeur de ce passage, c'est aussi, je crois, la maîtrise d'ouvrage. Qu'est-ce que ça va changer, cette maîtrise d'ouvrage, par exemple, Mathieu ?
C'est d'avoir simplement les moyens de ses envies, c'est-à-dire de ne pas sans arrêt avoir la sensation de faire, de demander l'aumône pour avoir le droit de faire une pièce ou mettre un coup de peinture ou changer ou casser un mur ou changer une cloison, mais simplement de pouvoir être responsabilisé et responsable de ce qu'on a à faire, savoir combien ça va coûter et pouvoir engendrer les fonds quand on peut le faire dans une planification. Je pense que c'est exceptionnel, mais en même temps, c'est un passage à l'âge adulte normal. D'un lieu comme celui-là, ça serait fantastique. Mais ça serait sortir de l'enfance et de l'infantilisme dans lequel les politiques veulent bien nous mettre.
Évolution des modèles économiques, mais aussi peut-être évolution des modèles politiques. La friche Belle de Mai, on pourrait aussi la qualifier, et comme l'ensemble des friches d'ailleurs, comme des laboratoires d'études de la démocratie d'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ?
Il n'y a pas très longtemps, j'ai participé à un repas comme ça avec des personnalités marseillaises, notamment un responsable de la Chambre de commerce, qui parlait de nécessité d'expérimentation. Alors moi, je buvais du petit lait, parce qu'au fond, la friche, c'est jamais qu'une succession d'expérimentations. Et donc, cette expérimentation, ça suppose quand même qu'on prenne en compte les gens, les laborantins, quoi. Et donc, une fonction de démocratie absolument indispensable. Par ailleurs, c'est toujours un peu délicat de dire qu'on a fait attention à ça, mais c'est vrai que je crois avoir, dans la friche, su déléguer à un certain nombre de gens, que ce soit au sein de Système Friche Théâtre ou dans l'ensemble du système, des gens qui ont trouvé là les moyens de se développer, de travailler, tout en nourrissant le projet. Et un jour, j'étais à Glasgow, qui va bientôt être jumelé avec Marseille, et j'entendais quelqu'un qui avait visité la friche, qui disait en anglais, alors je n'étais pas très sûr d'avoir très bien compris, c'est formidable sensation de liberté qu'on a à la friche à Belle Mai. Et petit lait, quoi. Petit lait, alors même en anglais.
Smolnik.
Freedom.
Mais est-ce qu'à un moment, la friche Belle de Mai ne pourrait pas, c'est peut-être paradoxal, mais devenir une espèce de producteur de droit ? Et est-ce que ce droit qui est inventé, qui est créé ici, puisse devenir exemplaire pour l'ensemble du monde du travail, pas uniquement le monde des artistes ou ce monde local-là, mais devenir un véritable laboratoire d'une vraie démocratie d'entreprise, d'un vrai droit social, peut-être à l'échelle internationale ou à l'échelle européenne en tout cas.
Je crois qu'on a bougé quelque chose dans ce sens-là, des pratiques ou des interrogations sur les pratiques. Je suis extrêmement prudent, moi. Je suis toujours le monsieur qui dit peut-être. Quelquefois même, je cite Jean Genet, je dis toujours peut-être. Mais je crois quand même que faire la démonstration que quelqu'un qui a pris... Bon, l'exemple de... parlons-en. On vient de sortir un livre de poésie par les enfants du quartier de la Belle de Mai et de Saint-Mauron, qui s'appelle Les Oiseaux, et qui est un monument de poésie comme ça, fait par des enfants, et tout d'un coup, simplement, les amener peu à peu, non pas leur dire « Allez, écrivez, c'est pas ça, c'est comme le type qui dit « Je fais de la formation parce que je file des caméras ». Non, c'est pas ça. Une caméra, c'est comme un stylo, il faut savoir s'en servir. Eh bien, qu'ils se sont mis comme ça avec le temps à apprendre les choses, ça peut être retrouver la confiance dans les autres, quoi. Mais pas n'importe quelle confiance dans les autres et dans leur capacité d'utiliser ce qu'on leur apprend. Voilà. Et peut-être que... Et d'ailleurs, j'ai vu une autre expérience où je trouvais qu'artistiquement, c'était pas complètement satisfaisant dans le propos, mais dans la réalisation, apparaissaient des merveilles. Et je me suis dit quand même, dans cette école française qui a tant de capacités de génie et pour que si peu de choses produisent autant de belles choses, quoi.
Dans le modèle classique ou antique même de la démocratie, il y a un lieu qui s'appelle l'Agora, c'est le lieu où se rassemblent les citoyens. Mathieu, est-ce qu'il y a dans la friche La Belle de Mai un lieu qu'on pourrait appeler l'Agora, ou bien est-ce qu'à la limite, on pourrait peut-être même imaginer que la friche Belle de Mai, ce soit précisément l'Agora de Marseille ?
La friche La Belle de Mai, c'est la friche La Belle de Mai. Il y a une Agora, oui, elle est devant là-bas. Là. Il y a un restaurant, il y a des lieux... je ne crois pas qu'un architecte, en tout cas pas moi, soit là pour décréter quel lieu va devenir ce... Enfin, il y a une espèce de côté un peu disciplinaire, d'en dire ce lieu-là, ça va être une agora, ce lieu-là, ça va être un bureau. Ça ne marche pas comme ça, ça marche en fonction de ce qui est capable de faire. Donc on imagine des flux, des parcours, des envies. Je pense que l'ensemble de la friche est un lieu de résistance et un lieu de possible. Après, j'ai pas envie de le définir pour reprendre ce que disait Philippe. Je crois que c'est un lieu indéfinissable et c'est pour ça qu'il est riche d'envie.
Et juste en un mot pour conclure, est-ce que tu penses que l'architecture est en mesure de pouvoir créer de la démocratie ?
Oui, bien sûr. Mais c'est parce qu'on fait des lieux autoritaires que c'est démocratique. C'est démocratique parce que les gens ou sont contents, donc c'est très bien d'être dedans, ou alors les détestent et donc ça provoque une réaction. Donc ça veut dire qu'on valorise l'individu d'une manière ou d'une autre. Donc plus on est autoritaire et plus on est violent dans ce qu'on fait, plus on crée de la démocratie, quelque part. C'est juste quand on n'a pas de parti pris sur les choses, et c'est le cas de bon nombre de mes confrères, quand on fait de l'architecture édulcorée pour essayer de plaire à tout le monde, qu'on participe plus d'une démarche démocratique, justement.
Pour terminer cette émission, un renvoi indispensable au livre « Les nouveaux territoires de l'art » qui rassemble plus de 80 contributions au colloque sur les NTA de 2002, des propos recueillis par Fabrice Lextret et Frédéric Kahn. C'est aux éditions Sujet-Objet. Et puis vous trouverez aussi d'autres documents sur le site de l'Institut des Villes, www.institut-des-villes.org. Philippe, Mathieu, merci beaucoup de votre participation à cette émission, ainsi que Claude Renard. Salut à Fabrice Lextret. Et on se quitte avec cet aphorisme d'Emmanuel Kant. L'art est d'autant plus indispensable qu'il est inutile, auquel rétorque instantanément Guy Debord. Certes, l'art est inutile, mais il l'est radicalement. Radicalité et enracinement, une même racine, à double sens, c'est le double pari. DNTA. Merci.
Mesdames, messieurs.
On descend.
Quel genre d'histoire ?
Des histoires.
Et après ?
537 représentations.
La vie est romance, c'est différent.